Vous écoutez RMC. RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
C'est la troisième partie de ce best-of d'Estelle Midi avec encore plusieurs débats au programme. On va parler de Paris, la capitale. Vous fait-elle encore rêver? On parlera également de cours d'alimentation à l'école. Est-ce nécessaire ou ridicule? Et puis, faut-il se ressembler pour être heureux en couple? La réponse, c'est tout de suite. L'exode du jour. Et cet exode, eh bien, c'est celui des Parisiens qui fuient la capitale. Chaque année, 12 000 habitants quittent Paris, notamment des familles avec enfants qui ne peuvent plus se loger à cause des prix exorbitants dans certains arrondissements, la plupart même. Ajoutez à cela les problèmes de surtourisme, de propreté, voire d'insécurité. Et on peut se demander, Martin, si Paris fait encore rêver.
Ouais, rappelez-vous, Pierre Perret même qui sort une chanson pour dénoncer la saleté de Paris. Dans Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents, chantait Pierre Perret il y a quelques mois de ça. Ouais, Stéphane Bern qui décide de quitter la capitale en 2021 pour rejoindre l'Eure-et-Loire en se disant soulagé, mettant en cause la saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit et la violence. Stéphane Bern, c'est loin d'être le seul Parisien à quitter la capitale. Paris a perdu près de 14 000 habitants chaque année entre 2017 et 2023, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. 80 000 habitants en 6 ans. Et c'est une exception en Île-de-France. Tous les autres départements de la région voient leur nombre d'habitants augmenter. Alors c'est aussi lié, évidemment, on l'a dit, à la saleté. C'est aussi lié au coût de la vie, notamment au prix de l'immobilier. Le prix médian et pas moyen. Pierre Rondeau pourra vous expliquer ce que c'est si vous avez besoin pour un studio. C'est 11 250 euros d'après une étude de Price Hubble et forcément...
Le mètre carré.
Le mètre carré, oui, pardon. Oui,
le studio.
Oui, ce que je me disais, tiens, je vais acheter.
Oui, j'ai oublié le mètre carré, effectivement. Forcément, ça n'attire pas vraiment les familles qui ont tendance à déserter entre 2011 et 2022. La part des ménages avec un enfant, par exemple, est passée de 24,7 à 23,1% quand celle des couples avec enfants, des couples sans enfants augmente. Ils représentent désormais plus de la moitié des ménages vivant dans la capitale.
Alors, Paris, vous fait-il encore rêver? Je me tourne vers vous, Fred Hermel, qui vivait à Paris.
Alors, je me suis installé à Paris il y a 4 ans et demi, avec le regard du petit provincial que je serai toujours, avec un certain émerveillement. Alors, il y a plein de choses qui me plaisent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont choqué, qui continuent de me choquer. Premièrement, c'est la saleté. C'est-à-dire, moi, j'arrivais de Madrid, qui est une ville où c'est très, très propre, où vraiment, on pouvait quasiment manger à une période, manger par terre. Enfin, c'est impressionnant comme Madrid est propre. Alors, mais quand tu arrives à Paris, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir toutes ces poubelles avec des sacs plastiques, de travers, avec de la saleté autour. Et puis tout, oui, c'est sale, quoi. C'est une ville qui est vraiment très sale. Et quand tu dis Paris, la ville lumière, la ville de l'amour, etc., en fait, je dis toujours que Paris, il vaut mieux avoir les yeux, la tête levée que la tête vers le sol. Quand tu lèves la tête, c'est magnifique. Les bâtiments sont sublimes. Tu vois les bâtiments, les monuments, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez par terre, ben c'est très crade, quoi. Donc ça, c'est vraiment le premier grief que j'ai compris.
Que la saleté vous gêne plus que le prix des loyers, vous?
Bah, c'est-à-dire que vu ce que je paye, j'aimerais bien que ce soit propre.
Ah oui, d'accord, oui.
Tu comprends?
Il y a une certaine...
Tu vois la logique, tu te dis, t'habites à Paris, c'est normal, bon, c'est cher, c'est Paris, etc. Après, on m'avait dit, pourquoi tu t'installes pas un petit peu en dehors de Paris, pas loin, le Valois, nanana. Je dis, non, parce que moi, je veux marquer Frédéric Hermel, Paris, 75 Paris.
Ah oui,
je voulais faire le fantasme du provincial qui a une adresse à Paris, quoi.
D'accord.
Ouais, ça me fait encore...
Maintenant, ça fait 4 ans et demi, vous pouvez changer.
Ouais, non, mais moi, j'aime bien, et puis, voilà, j'aime bien, mais voilà, après, et puis il y a aussi le fait que là aussi je compare par rapport à Madrid, c'est l'insécurité, quoi. C'est-à-dire qu'à Madrid je faisais pas attention, ici je fais attention tout le temps dans les transports, quoi.
Yael Mellul, vous aussi vous habitez à Paris?
Alors non, je n'habite plus à Paris. J'ai habité très longtemps à Paris, pendant une vingtaine d'années. Alors j'ai fait les quartiers très longtemps, j'étais dans le 16e. J'ai une adoration pour la Tour Eiffel. J'avais cette chance de pouvoir prendre mon café quasiment tous les matins face à la Tour Eiffel dans un café. Pour moi, si vous voulez, le problème c'est que Paris pour moi c'est vraiment la plus belle ville du monde. Mm-hmm. J'ai vraiment une adoration. J'aime cette ville. Mais je suis partie par la force des choses. La vie a fait que, voilà. Maintenant, j'habite avec ma maman dans le 91. Voilà. D'accord. C'est autre chose. Mais le problème, c'est que Paris aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est que ça relève du rêve, en fait. C'est que moi, je suis nostalgique du Paris d'avant. Voilà. Du Paris où c'était, parce qu'il y a eu un moment où Paris, c'était propre.
Ouais.
Voilà. Où c'était très verdoyant.
Mais c'était quand, ça?
bah c'était peut-être il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, voilà. Le Champ de Mars, c'était quelque chose, quoi. Enfin, c'était des jardins, voilà.
C'est moins ça aujourd'hui.
Voilà, c'est un peu moins ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, Paris, c'est devenu une ville de riches, en fait.
Et de touristes.
Et de touristes, voilà. Bah, de riches, voilà. Donc, on a fait fuir l'âme de Paris quelque part, parce que l'âme de Paris, c'est pas les riches, hein. Enfin, c'est pas les riches. Non, j'ai habité dans le 16e, j'ai aussi habité dans le 10e, j'ai habité Porte de Vincennes, j'ai été dans des quartiers populaires, enfin, je veux dire, mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent s'offrir Paris, et il y a évidemment le côté crasseux de la ville de Paris, aujourd'hui, hélas, et il y a le côté insécurité qui est une des premières préoccupations aujourd'hui des Français, enfin des Parisiens pour les élections municipales tout de même. Hein. Faut pas oublier ce côté violence qu'a aujourd'hui cette ville de Paris. Hein.
Alors l'âme de Paris aujourd'hui c'est peut-être les bobos. Pierre Rondeau fait partie. Pierre, vous étiez parti vous exiler en banlieue parisienne.
Contraint et forcé.
Ça a été très dur pour Pierre Rondeau.
Ça a duré 3 ans. J'ai très mal.
Mais vous êtes vite revenu.
Je pense sur ce plateau le vrai Parisien. Pardon de le dire.
Vous êtes né à Paris.
Je suis né à Paris, scolarisé à Paris toute ma vie.
Moi aussi.
Paris c'est ma ville. Paris je l'aime de tout mon cœur. J'aime les rats parisiens. J'aime la saleté parisienne. J'aime les Parisiens qui ne sourit pas, j'aime les Parisiens qui ne disent pas bonjour, j'aime la méchanceté parisienne.
Mais c'est vous.
Paris, c'est ma ville. Et jamais, au grand jamais. Alors oui, vous allez dire que j'ai quitté 3 ans.
Vous êtes parti à Gentilly.
Je suis parti à Gentilly, contraint et forcé.
Vous étiez content au début.
Oui, c'est vrai. Mais
plus Gentilly, c'est collé à Paris. Hein,
pour ceux qui ne connaissent pas,
vous voyez, j'étais littéralement face à la cité universitaire, en face du 13e arrondissement. Mais quand je voyais le périph' autour, j'étais là, mais je ne suis pas dans Paris. Paris, c'est ma ville, voilà. Paris, je l'aime. Paris, je ne pourrais jamais. Parce que contraint et forcé, mais je suis vite revenu au bout de 3 ans. Je n'ai vécu que 3 ans en province, j'allais dire, en banlieue parisienne.
En banlieue parisienne. De Paris.
Non mais encore une fois sur cette question, oui, prix élevé.
Tu prenais le RER.
Mon Dieu, station RER C, B, Gentil, ouais, je marchais jusqu'à Marie de Montrouge.
Des gens font ça et ne s'en partent pas.
Bien évidemment, je rigole, mais à cette question, prêt à quitter Paris pour toutes ces questions que vous avez citées, toutes ces raisons que vous avez citées, Paris c'est ma ville. Paris c'est ma ville. Paris je l'aime de tout mon cœur et j'aime ses défauts.
Mais qu'est-ce que tu aimes ?
J'aime tout dans Paris. Je ne peux pas. Les restos hors de prix,
saleté,
les loyers hors de prix, la saleté, les rats, tout. J'aime tout dans Paris. J'aime le PSG. J'aime les rues parisiennes. J'aime les bâtiments. Ces Parisiens qui tirent la gueule le matin, qui me disent pas bonjour, et je leur renvoie ce non bonjour et on s'adore. Paris, c'est ça, Paris. Et Paris, je l'aime.
Vous aimez le surtourisme ?
J'aime ces touristes que je méprise, j'aime ces quarts de Chinois qui débarquent au Louvre et que je regarde avec dédain. Je les adore. J'adore tout dans Paris. Il n'y a rien, il n'y a aucun défaut que je peux citer pour ma ville.
La dernière fois, vous êtes monté à la Tour Eiffel ?
Jamais.
Mon Dieu,
aucun Parisien ne le fait.
C'est la vie.
Aucun Parisien ne fait ça.
À 30 ans, c'est la honte.
Oui, mais très tardivement. Mais tous mes amis et tout le monde, tous les vrais Parisiens nés à Paris, scolarisés à Paris, font pas les trucs touristiques.
Oui, enfin, mais c'est pas du tourisme. Oui, la Tour Eiffel. C'est vraiment Paris.
Oui, mais on n'y va pas parce que pour nous, ça fait partie de Paris. Ça fait partie de nous.
Faut y aller un jour, Pierre.
Oui, sûrement. Invitez-moi si vous voulez. Mais pour moi, la Tour Eiffel, c'est je la vois de loin. Voilà, n'en parlez pas.
Voilà. nous sommes avec Arnaud et Arnaud il nous appelle de Lille-Adam, c'est pas très loin de Paris, très jolie ville du Val d'Oise. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Estelle.
Comment et Arnaud, vous avez vécu longtemps à Paris, hein ?
Oui, tout à fait. J'ai quitté Paris, donc je suis pur parisien, né à Paris dans le 16e. J'ai quitté Paris en 2019.
D'accord.
Voilà.
Après combien d'années donc ?
Bah donc vous comptez, hein, 49 ans de vie parisienne.
D'accord.
Voilà, mais j'en pouvais plus. La saleté, l'insécurité. Et puis on est passé d'un appartement de 65 mètres carrés à une maison de 140 mètres carrés, ce qui change un peu les choses, voilà.
Après vous avez moins de restos, de lieux culturels à Lille-Adam qu'à Paris par exemple quand même.
Effectivement, mais la tranquillité, on peut se déplacer facilement, on peut aller en proche province. Il y a de très bons restaurants, notamment la Baie de la Somme, donc qui est pas très loin. Donc c'est différent, mais c'est très appréciable. Voilà.
Et vous retournerez un jour à Paris ou pas y habiter, Arnaud ?
Ah non, pas du tout.
Ah,
non. Je resterai maintenant banlieusard, si j'ose dire. Voilà.
Voilà, Arnaud, un Parisien déçu. Il y en a beaucoup. On a des messages sur WhatsApp, Martin.
Et il y a aussi des gens qui aiment Paris. Baba, par exemple. Oui, bien sûr que Paris fait toujours rêver. J'ai 24 ans, j'habite à Toulouse et je déménage à Paris dans un mois. Baba qui va donc découvrir la vie parisienne. Et puis,
je sais pas ce qu'on lui a dit.
Il y a Eric, oui, on va peut-être pas donner envie.
Parler du climat actuel ou pas?
Eric qui dit j'adore vivre à Paris, mais je suis contraint de partir en raison du prix du logement. Et beaucoup partent aussi parce qu'ils sont contraints. Ça fait partie du rêve désenchanté un petit peu de la vie parisienne.
Exactement. Et nous sommes avec Corinne Joly, présidente de PAP, de particulier à particulier. Bonjour Corinne Joly.
Bonjour.
Corinne Joly, est-ce que Paris fait encore rêver? Est-ce qu'il y a toujours autant de gens qui consultent les annonces immobilières pour Paris?
Oui, globalement, Paris reste le marché le plus dynamique de France. Ça reste la ville la plus recherchée de France. Mmh. Et ça reste une ville sur laquelle, quand on publie une annonce de location sur notre site, on peut rapidement avoir des centaines de demandes. Donc, évidemment que Paris reste attractive. Maintenant, d'ailleurs, on l'entend bien, j'ai écouté tous les témoignages. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Paris est une ville très dense, c'est la ville la plus dense d'Europe. Donc, ouais. Clairement, il y en a qui n'aiment pas ça. Quand on cherche la tranquillité, il ne faut pas habiter à Paris. Mais elle a aussi énormément d'avantages, et là, je vais parler d'avantages très pragmatiques, puisqu'on a déjà eu une grande déclaration d'amour
sur
des paramètres plus... Mais voilà, en termes d'emploi... En termes d'accès à la culture, etc., c'est l'une des villes dans laquelle, enfin, et là je vais surtout insister sur l'emploi, il y a un certain nombre de métiers où vous ne pouvez pas faire la même carrière si vous n'êtes pas à Paris. Là, typiquement, vous êtes dans les médias. Bon, quasiment tous les médias nationaux sont à Paris, donc ce ne sont pas les mêmes carrières. Donc beaucoup de gens ont des raisons très pragmatiques d'habiter à Paris, et le problème que tout le monde a, c'est le prix. C'est-à-dire que c'est une ville où la plupart des départs sont quand même contraints. On parle souvent du départ, notamment des jeunes couples quand ils vont avoir un enfant. C'est tout simplement parce que se payer la chambre supplémentaire, c'est très compliqué. La plupart des Parisiens habitent dans des logements qui sont petits par rapport à leurs besoins.
C'est quoi les prix moyens d'un T2, T3 à Paris?
À Paris, on est en ce moment à peu près à 9 600 € du mètre carré. Donc un T2, on va rapidement être à 400 000 €, T3, 600 000 €. C'est très très cher, donc ça fait quand même la chambre de plus à 150 000 à 200 000 €. Donc évidemment que quand on se met à avoir des enfants, on a souvent du mal à financer ça. Donc c'est la raison numéro un pour laquelle les gens partent. Donc c'est pas juste parce qu'ils n'aiment pas Paris, parce que c'est sale, parce que c'est pollué, etc. Si Paris était à 5 000 € du mètre carré, je vous assure que ça se bousculerait pour acheter des logements.
Bien sûr. Mais vous dites Paris n'est pas fait pour tout le monde. Mais Paris est fait pour qui, en fait?
Pour les gens qui aiment bien, typiquement, les Parisiens vivent un peu plus dehors. C'est-à-dire qu'il faut attacher plus d'importance à ce qu'on trouve à l'extérieur qu'à son propre logement. Parce qu'on va avoir un logement qui est potentiellement petit. Si on aime bien aller souvent au restaurant, au cinéma, sortir, etc., et qu'on y attache plus d'importance que ce qu'on va trouver dans son logement, Paris est très adapté. Si en revanche on est plutôt casanier, qu'on a besoin d'espace vert, qu'on a besoin de tranquillité, mais c'est surtout la question de l'espace. Quand on a besoin d'espace chez soi, vous voyez, je pense à des profils aussi ces derniers temps qui sont allés télétravailler, qui veulent avoir leur bureau, qui veulent avoir des salles pour les enfants, etc. Enfin, d'ailleurs, l'un des témoins l'a dit, il est passé sur une maison à 160 mètres carrés. Si ça, c'est un critère qui est important, forcément, à Paris, vous allez avoir du mal à avoir 160 mètres carrés.
Merci beaucoup, Corinne Joly. Voilà, on a bien compris que Paris était fait plutôt pour les riches, même. Merci beaucoup.
Et pour les étudiants, parce qu'il y a énormément d'étudiants.
Effectivement, pour faire ses études, c'est quand même plutôt pas mal, Paris. On est également avec Philippe, qui nous appelle de Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, justement. Il est retraité. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous avez vécu à Paris, vous?
Moi, je suis parisien.
D'accord, ça s'entend.
je suis né dans le 10e, en 64.
Ouais.
Ma belle vie, rue de la Goutte d'Or.
Ouais.
Dans le 19e, rue de Périgueux. Et... le respect, on l'avait avec tout le monde. Mmh. Et quand je vois les gens, comment maintenant, c'est de la folie, quoi. Parce qu'au bout du compte, moi, mon père, il m'aurait vu pas respecter une dame ou pas monter ses courses, il mettait une grande tarte dans la bouche.
Oui, ça c'est fini, ça. Non,
c'est pas fini, c'est comme ça. Maintenant, franchement, les gens, moi, à Paris, j'ai passé ma plus belle vie à Paris quand j'étais jeune.
Eh oui. Enfin, vous avez 62 ans, Philippe, ça va encore?
Ah, ça va encore, moi ça va très bien. Moi je suis parisien, j'ai boxé 17 ans en Thaïlande, ma femme est thaïlandaise, tout va bien moi. Moi j'ai peur de rien. Mais le problème, quand je vois comment l'insécurité et les poubelles dans Paris, c'est une catastrophe.
Et c'est pour ça que vous êtes parti ?
Ah non, je suis pas parti.
Ah bon ? Bah, vous avez appelé de Vitry-sur-Seine ?
Mais Vitry, je suis à 4 bandes de...
Ah, c'est pas pareil. Hein.
Alors là, demandez à Pierre Rondeau ce qu'il pense de ceux qui habitent
Vitry,
juste à côté.
Non, vous,
mais non,
vous,
mais non.
Vous êtes francilien, mais pas parisien, pardon de le dire.
J'habitais Tour Tokyo dans le 13e.
Ah oui.
Okay. Après, on a repris un pavillon. Et là, maintenant, je suis bien. C'est pas le problème. Mais quand je vois... comment
vous n'êtes plus parisien, Philippe.
Tu peux pas te garer. Tu peux rien faire. Moi, j'ai une voiture électrique. Pour la brancher, c'est une catastrophe.
Mm. Oui.
Tu la mets, tu te gares. J'ai une carte handicapée parce que j'ai un grave accident. Et ils te mettent quand même des PV. Hidalgo, elle est perchée, quoi.
Oui, mais donc vous n'êtes plus parisien, Philippe.
Si, dans l'âme, je suis parisien.
Ah oui, oui. D'accord. Oui. Vous êtes parisien dans l'âme, mais vous vivez à Vitry-sur-Seine.
Ah mais je suis à 4 km.
Oui, oui.
Mais 4 km, c'est énorme. Hein.
Non.
Le problème, j'ai un malinois. Et quand j'ai un malinois...
Ah oui, un malinois, non. Oui, non.
Voilà. Et d'après Pierre Rondeau, vous êtes provincial.
Je suis pas perché, quoi.
Voilà. Il est étranger.
Est-ce que votre passeport est à jour ?
Ah, bien sûr, parce que moi, je suis en Amérique du Sud.
Oui, non, c'était pas... C'était une vanne de Pierre. Merci, Philippe.
Non, c'est même pas le problème. Le problème, il est pas là. C'est que... la vie d'avant à Paris ne sera plus comme maintenant.
Ah ben ça, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, tous les auditeurs vont dans le même sens. Merci, sauf Pierre Rondeau. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous. Parisien de cœur, ça compte, Pierre.
Ouais, oui, ouais. Si on veut, dans ces cas-là. Oui, non, mais oui, parisien de cœur, si vous voulez.
Pas dis donc, ça fait plaisir. Des messages sur le WhatsApp.
JB, Martin. Paris version JO m'a fait rêver. Paris dans la vie de tous les jours, pas du tout. Ça ne me fait pas rêver, que ce soit pour la sécurité ou le mode de vie. Je suis bien dans ma campagne. Et puis on a Samaël. Oui, Paris fait rêver. Le cauchemar, bah, c'est Pierre Rondeau, c'est les Parisiens.
Oui.
Mais si les Parisiens partent, on pourra tous visiter tranquillement la capitale avec assez de place pour marcher sur le trottoir ou avoir un métro tranquillement.
C'est vrai que les Parisiens marchent au milieu du trottoir, c'est insupportable.
Est-ce qu'on veut
Allez, on termine rapidement avec Ludivine qui nous appelle de Toulon et elle est indépendante dans le commerce. Bonjour Ludivine.
Salut tout le monde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ludivine, bah tiens, en tant qu'habitante du Sud, vous portez quel regard sur Paris ?
Bah, moi je suis native de Paris, donc j'ai vécu à peu près 37 ans, je suis partie il y a une dizaine d'années. Bon, après je vivais pas vraiment dans Paris, je vivais en Grande Couronne, mais en fait j'étais... j'y travaillais. Donc je travaillais dans le milieu de la nuit. Là-bas, je travaillais dans les boîtes de nuit, des restaurants et tout ça. Donc, on va dire, je passais énormément de temps à Paris et quelque part, la vie parisienne me manque. Mais j'en pouvais plus de Paris. J'en pouvais plus de, surtout les bouchons, le temps, un peu les problèmes pour se garer, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir dans le Var. Hein, on aurait pu partir ailleurs. Et mais maintenant, j'y retourne assez souvent, peut-être 3, 4, 5 fois dans l'année pour aller voir des concerts, pour des choses. Et j'apprécie beaucoup plus maintenant Paris.
En fait, vous l'appréciez plus en touriste.
C'est ça, exactement. Oui. C'est un vrai bonheur. Là, j'y suis allée au mois d'août. J'avais été pour un concert d'ACDC au mois d'août dernier.
Ah, la chance.
Et ouais, on a vraiment apprécié parce que je visite des endroits que j'ai jamais eu le temps de visiter en fait avant. Pourtant, j'y ai vécu très longtemps. Mais voilà, on découvre des petites ruelles. On voit plus les choses de la même manière en fait.
Exactement. Et c'est vrai que quand on habite Paris, on visite rien. En fait, ce qui est assez dommage. On n'en profite pas assez finalement quand on y habite, et on en profite plus quand on habite ailleurs. Merci Ludivine, en tout cas, de nous avoir appelé depuis Toulon, dans le Var. Et on va terminer avec notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Martin.
Est-ce que Paris vous fait encore rêver ? Eh bien, vous répondez non à 89%.
Wow. Ah oui, il y a une petite désaffection. Pierre Rondeau va finir tout seul dans la capitale.
Je serais très bien tout seul.
Mais ça, on le sait. Et vous faites tout pour, Pierre.
RMC. Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser à la proposition de loi du jour. Et c'est celle de la députée de Paris, Olivia Grégoire, qui souhaite instaurer des cours d'éducation alimentaire à l'école. Le but serait d'apprendre à nos enfants les méfaits de la malbouffe et de leur inculquer quelques notions élémentaires en termes de nutrition. Pour l'ancienne ministre, il y a urgence, Martin, alors même que les chiffres de l'obésité chez les jeunes explosent.
En seulement 30 ans, le nombre d'obèses chez les 18-24 ans a été multiplié par 4 d'après l'Inserm. C'est x3 chez les 25-34 ans. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des Français est en surpoids. 1 sur 5 est obèse. Voilà pourquoi Olivier Grégoire veut ses cours d'éducation alimentaire à l'école. 3 cours par an, de la maternelle à la 6e, 1 par trimestre finalement. Des projets d'établissement obligatoires à partir du collège, centrés autour de la nourriture également dans les cartons. On serait sur une expérience pendant 3 ans à partir de la promulgation de la loi, si elle est adoptée. Ça permettrait de voir cette expérimentation, si les enfants se familiarisent plus facilement avec les fruits, avec les légumes notamment, des produits qu'on ne cuisine pas ou très peu au quotidien. Et pour cause, un jeune de 15-24 ans sur 5 ne sait pas reconnaître une courgette. C'est pas beaucoup mieux chez les plus de 24 ans.
C'est ça ce que j'allais dire.
1 sur 10, 10%, 11% des Français ne savent pas reconnaître une courgette.
Ouais, c'est tricher la courgette parce que ça ressemble à un concombre.
Oh bah ma pauvre. Oh là là. À mon avis. Et
dans les 10%, il y en a une à mon avis.
Ouais, bah déjà, il y a rien, ça.
Non, mais, le cassos.
Non mais demande. Fais un micro-trottoir avec un navet ou un panet et tu vas voir
ouais,
le résultat.
C'est technique, attention quand même.
Si tu dis comment ça va, c'est une carotte blanche qu'on va pas non plus.
Ouais, ouais.
Non, mais après, qu'on va te répondre, c'est une carotte blanche.
C'est racine, panet, c'est pareil, non, c'est technique.
Alors, des cours d'éducation alimentaire à l'école, est-ce nécessaire ou ridicule? Baptiste Desmontiers, bah tiens, vous qui avez deux enfants.
J'ai deux enfants et j'adore cuisiner.
Est-ce que ça va reconnaître une courgette?
Ouais, clairement. Okay. Clairement.
Et un navet?
Un navet, oui, parce qu'on en achète beaucoup au printemps.
Topinambour,
attendez, on va pas se faire toute la galaxie des goumouillés. Non, je trouve que c'est très bien parce qu'en fait, l'éducation, c'est... vous savez, quand on parle du sport, on a l'impression que le sport est une sous-matière. Non, le sport est fondamental. Et en fait, l'alimentation, si on réfléchit juste, on bouffe 3 fois par jour à peu près. Donc en fait, se dire que c'est enseigné 3 fois dans l'année, c'est pas le bout du monde. Moi, je pense que c'est fondamental. D'autant qu'on réalise aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a quand même pas mal de parents qui sont dans une forme de démission intellectuelle de la nutrition, quoi. Ouais. Parce que quand on voit le nombre de fast-food qui prolifère partout en France, il y a un problème. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on parlait de l'obésité, on avait arrêté de regarder les États-Unis, regarder le Mexique. Parce qu'il n'y avait que des fast-food partout. C'est en train d'arriver chez nous. On est le premier terrain pour McDo aujourd'hui. Donc non, il est fondamental d'expliquer aux enfants, au-delà des pubs, manger, bouger, c'est bien, de leur expliquer qu'il faut manger des légumes, de leur expliquer comment on fait un repas complet. Parce que, visiblement, à la maison, c'est pas forcément toujours fait par les parents, quoi.
Alors le problème, c'est que c'est pas les enfants qui font les courses, Yelmélule. C'est-à-dire que a priori, c'est des parents qui achètent des chips, des sodas. Un gamin de 6 ans, il a pas une carte bleue pour aller au supermarché, quoi.
Oui, c'est vrai, mais pour une fois qu'il y a quelque chose de bien qui est proposé.
C'est vrai.
Hein, on va s'en féliciter. D'accord. C'est quand même assez rare. Mmh. Donc à partir du moment où le postulat de base, c'est qu'aujourd'hui l'obésité et le surpoids est un problème de santé publique et qui touche de plus en plus de jeunes et d'adolescents. Donc c'est une mesure, elle est assez mince parce qu'une fois par trimestre, c'est quand même pas énorme, mais c'est déjà ça. Et si les enfants peuvent influencer leurs parents quand ils vont faire les courses au supermarché, pourquoi pas? Je sais pas, je demande, je pose la question. Ça me semble un petit peu illusoire, mais c'est une petite mesure qui peut avoir des petits effets. Mais pourquoi pas? Maintenant, est-ce qu'on va pas éduquer les parents? C'est trop tard. Voilà, c'est trop tard.
Après, c'est vrai que nos enfants nous ont poussés à faire des efforts en matière d'écologie. Moi, par exemple, il y a eu un moment où les petits ils venaient, ils me disaient, il faut trier, arrête de laisser l'eau allumée quand tu te laves les dents. Enfin, ce genre de trucs que j'aurais dû faire de moi-même. Mais c'est vrai que mes enfants m'y ont aidé. Donc, parfois, les enfants peuvent éduquer les parents. Mais enfin, on se dit quand même que d'en passer par là, un peu comme dans les années 60, vous aviez des cours de couture, des cours de cuisine, etc. C'est quand même un peu dommage, Juliette Briens.
C'est pas que c'est dommage, c'est est-ce que, moi ma question c'est est-ce réellement efficace? Parce que la prévention, on adore ça, parce que ça peut se balancer comme ça, quand on a une petite phrase politique à sortir, on sait pas trop quoi dire, on dit on va faire de la prévention, on va faire un cours, on va faire un spot, on va faire ça. Moi j'aimerais savoir, par exemple prenons la cigarette, aujourd'hui c'est vraiment, ça y est, ça commence vraiment à être ancré, la cigarette, que c'est mauvais et que même les jeunes, je pense, commencent à avoir... la notion des dangers dans lesquels ils se mettent. Mais est-ce que c'est la prévention? Est-ce que c'est fumer-tu? Ou est-ce que c'est l'évolution progressive des mœurs, de voir mourir des gens du cancer et effectivement l'explosion des prix des cigarettes qui a fini par faire baisser la consommation?
Les deux.
Et en fait, j'aimerais savoir, on va encore, donc imaginons qu'on le mette en place, dépenser énormément d'argent là-dessus. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Moi, j'ai du mal à croire que dans les familles où la malbouffe a lieu... les parents n'ont absolument aucune notion dans leur tête que manger un plat de carottes, c'est moins gras et meilleur pour la santé que de manger un Big Mac. Moi, je pense qu'ils le savent, vous voyez. Je pense que peut-être la raison, elle est autre part. Elle est peut-être financière,
elle ne connaissent pas les dangers.
Ils n'ont peut-être pas conscience du. Par exemple, pardon de te couper, Juliette, mais ils n'ont peut-être pas conscience que dans un burger, quand tu prends la petite sauce qui va avec, il y a énormément de sucre.
Oui, exactement.
Et n'oublions pas que les enfants à qui on va apprendre aujourd'hui à mieux manger ou mieux cuisiner seront les parents de demain.
Exactement.
Donc, vont peut-être avoir une conscience pour demain. C'est peut-être pas eux qui vont infléchir le menu la semaine prochaine, mais.
Mais donc. Moi, ce que je voudrais, c'est juste qu'en fait, qu'on ait derrière des vrais retours sur la manière dont on dépense notre argent. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si réellement une prévention anti-malbouffe est nécessaire pour les jeunes et a un impact concret, qui suis-je pour m'y opposer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bénéfique, mais j'en suis pas sûre, en fait. Et on n'a jamais de retour. Manger 5 fruits et légumes par jour, on en est où? On en est où des pognons dépensés là-dessus? Non, mais je voudrais juste savoir. C'est une question légitime, vous voyez. J'aimerais savoir où on en est. Voilà. Et après, bon, évidemment, je ne commencerai même pas sur les questions de temps, d'argent, trouver des profs, des salles de classe, enfin, de dégager des heures.
De dire à un gamin qui a 6 ans, regarde le Nutri-Score A, B, C, D, et le mieux, c'est que tu manges A ou B.
Ouais.
Et puis, dis à tes parents que les chips, c'est bien, mais pas plus d'une fois par semaine. Des choses comme ça, quoi.
Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'en matière de santé publique, le plus rentable, c'est la prévention. Un euro investi dans la prévention égale, je sais pas. C'est, tous les scientifiques s'accordent à dire ça.
Martin, on a plein de messages sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Ouais, Olivier qui nous écrit notamment au 0612 424 424, il est enseignant, Olivier. Ça fait 20 ans que je n'ai pas entendu le mot pédagogie. On doit tout faire à la place des parents. Combien de temps nous reste-t-il pour faire des maths, du français? C'est vrai que le niveau en France est tellement bon. Trois petits points de suspension. Ça n'a pas l'air d'enchanter, Olivier, ces cours d'éducation alimentaire.
Ce serait en plus.
Ce serait une bonne idée pour Fred, en revanche. Oui, ce serait une bonne chose. Souvent, j'entends que l'État est toujours en train de materner la population. Mais quand tu vois l'état de la population, je me dis que ce n'est pas un mal.
Yael Mellul, est-ce qu'il faut faire de la prévention chez les plus jeunes ou au contraire multiplier les taxes justement sur la malbouffe?
Oui.
Juliette parlait du tabac, le tabac ça a marché.
Oui, mais si vous voulez, on peut pas à chaque fois envisager ces luttes-là par le prisme de mesures fiscales, parce que ce sont des mesures fiscales. Voilà, il faut absolument qu'il y ait de la pédagogie. Moi, je suis pour la prévention à fond. Je veux dire, par exemple, cette mesure, elle est pas mal, elle serait pas mal si l'éducation à l'alimentation se faisait à la cantine avec des menus cohérents. On explique aux gamins. Voilà, aujourd'hui,
on va leur expliquer.
Voilà. Bon, il faut prendre quelqu'un. Voilà. Et donc,
tu vas demander à quelqu'un de Sodexo de venir, faire des cours de bouffe aux enfants.
Oui, mais alors il faut. Il faut se donner les moyens. Oui. À un moment donné, on est face à un fléau de santé publique. Vraiment, littéralement. Donc, il faut le combattre. Donc on fait comment? Voilà, on va encore taxer? Si c'est si dangereux que ça, interdisons tous les produits dangereux, voilà, point barre, à un moment donné.
Mais pourquoi pas taxer?
Je veux dire, voilà,
pourquoi pas taxer?
C'est dangereux pour la santé,
produits,
on interdit.
Voilà. C'est pourquoi soda pas. Et tout, c'est très bien.
Vous avez vu qu'aux États-Unis, l'obésité recule grâce à l'Ozempic.
Exactement, alors grâce à l'Ozempic, c'est évidemment un médicament anti-obésité, et comme effectivement ça donne du dégoût des produits trop gras et trop sucrés, et bien les magasins Walmart voient leur vente de fruits et légumes augmenter grâce à
Les restaurants réadaptent leurs portions à la baisse parce que les gens ne peuvent plus manger autant qu'avant.
Exactement. Esteban est avec nous, il nous appelle de Bordeaux. Il est vendeur automobile, mais sa conjointe est prof des écoles. Bonjour Esteban.
Bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe, et vous êtes encore sublime aujourd'hui Estelle avec cette belle marinière.
Oh mais écoutez, merci, vous avez bien fait d'appeler au 32-16. Esteban, votre conjointe est professeure des écoles, est-ce qu'elle serait contente, elle, d'enseigner justement l'alimentation aux enfants?
Alors justement, on en parlait, et c'est vrai que... quand c'est pas l'alimentation, c'est le sport. Quand c'est pas le sport, c'est le téléphone portable. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord, même j'en suis à peu près sûr à 100%. On en parle assez régulièrement. Le niveau scolaire est déjà très très bas. Je pense qu'il y a d'autres priorités à enseigner aux élèves que l'alimentation, même si c'est une chose qui est fondamentale, c'est un basique. Sauf que elle part du principe que ce n'est pas elle de faire le rôle des parents. Et c'est le souci aujourd'hui, que ce soit le sport, où le sujet la semaine dernière c'était de remettre plus de sport à l'école. Il y en a déjà beaucoup. Elle respecte le programme, mais aujourd'hui elle se voit pas faire le rôle des parents en enseignant l'alimentation. Pour moi c'est le basique. Moi j'ai pas eu ces cours-là. J'ai 27 ans et je sais aujourd'hui me nourrir sans aller au McDo et manger des kebabs tous les jours, quoi.
Ouais, parce que vous avez peut-être des parents qui ont fait leur job, Esteban, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de parents qui démissionnent.
Ben oui, mais le problème, c'est que c'est pas à l'école d'absorber justement tous les manquements des parents. Mmh. Parce que comme je le disais, voilà, les enfants sont de plus en plus gros, mais parce qu'ils sortent de moins en moins, ils sont de plus en plus devant les écrans le week-end. Elle le voit, elle le sait. Le week-end, quand elle pose la question aux élèves, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ben voilà, j'étais sur le téléphone, et puis j'ai été au McDo, et puis machin. Ah. Mais le problème, c'est qu'elle va pas passer derrière chaque élève le week-end pour savoir ce qu'ils ont fait, et puis dire aux parents, bon ben ce week-end, essayez de le sortir un peu, quoi. C'est un peu limite, et c'est pas son rôle, en fait, de base.
Ben merci beaucoup Esteban. Ben oui, c'est pas forcément le rôle des profs d'apprendre à manger aux enfants, et c'est vrai que ouais, normalement c'est aux parents de le faire. Désolé, Baptiste Desmontiers.
C'est pas moins, pardon, je réagis parce que je me dis, est-ce que c'est moins important d'apprendre à manger que d'apprendre le théorème de Pythagore? Enfin, excusez-moi, on peut repenser aussi l'éducation.
Moi je préférerais que mes enfants apprennent à lire déjà en
moi, manier, non quoi. Mais je veux dire, j'entends tout à fait le ras-le-bol des profs à qui on rajoute des couches d'éducation, oui. Mais en fait, adaptons-nous. Il y a une problématique sociétale d'obésité. Peut-être que enseigner le bien manger, c'est pas moins intéressant que d'apprendre Thalès ou Pythagore, dont perso je ne me suis jamais resservi depuis la 4e.
Alors a priori à 6 ans ils apprennent pas ça, donc non, en fait ce serait d'abord la petite école jusqu'en 6e,
c'est la 4e, et pardon,
mais ce serait jusqu'en 6e là.
Il y a des petites choses, il y a des petites choses très mignonnes à faire en primaire, franchement 3 cours dans l'année, ça va pas les tuer les profs.
Moi je me rappelle que j'avais des cours de cuisine, hein.
Oui, parce c'est bien ce qu'on dit dans les années 60, mais
non, c'était pas les 60.
Oui, enfin bon, oui, et vous aviez une blouse. Bon bah écoutez, c'est super,
les années 80. C'est super. Oui. Et on avait aussi, on venait aussi nous dire pour la cigarette, on nous expliquait que c'était voilà, que c'était dangereux pour la santé.
On voyait des poumons tout gris.
Mais oui, c'était horrible. Bon, ça m'a pas empêché de fumer, mais bon.
Ben voilà, donc vous voyez l'efficacité de ce genre de cours. On a plein de messages.
Plein de messages. WhatsApp, Alex, maintenant, notamment, qui nous écrit. Je pense qu'il est nécessaire de les instaurer, ces cours d'éducation alimentaire, mais c'est navrant. Les parents ont démissionné de ce rôle, et si on veut limiter les dégâts déjà bien présents sur notre jeunesse, l'État doit s'occuper du problème. De mon côté, j'initie mon fils de 2 ans et demi à la cuisine et il adore. Voilà ce qu'écrit Alex.
2 ans et demi. Des cours d'alimentation à l'école, est-ce nécessaire ou ridicule? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
C'est nécessaire pour 54% des personnes qui ont répondu.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
On va poursuivre Estelle Midi tout de suite avec les vacances du jour. Et ces vacances, eh bien, c'est celle de la zone C qui démarre demain soir, comme chaque année. Des milliers de parents vont faire rater l'école à leurs enfants pour des raisons logistiques, mais également économiques. Mais est-ce que c'est légal, Charles, de faire rater l'école à ses enfants?
Alors non, on va rappeler qu'en France, l'instruction, l'école est obligatoire pour tous les enfants de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. L'élève doit, je cite, assister aux cours prévus dans son emploi du temps, sauf si son absence est justifiée, comme le précise le code de l'éducation. On parle de maladie, d'une réunion familiale comme un enterrement par exemple, un accident causé par les transports. En revanche, le départ un jour plus tôt pour éviter les bouchons ou payer moins cher ne fait pas partie des motifs recevables. En cas d'absence injustifiée et répétée, le directeur de l'établissement est tenu de convoquer les parents ainsi que l'équipe éducative. Si les absences se perpétuent, le directeur académique peut saisir le procureur de la République pour manquement à l'obligation scolaire. Les représentants légaux de l'enfant sont alors passibles d'une amende de 750 €. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de poursuite. Les condamnations pénales des parents pour absentéisme sont d'ailleurs exceptionnelles et cantonnées aux cas les plus graves et les plus sérieux. En revanche, les spécialistes de l'éducation recommandent de prévenir les profs avant un départ en vacances anticipées.
Oui, mais quand tu préviens, après, il regarde hyper bizarrement ton enfant. Donc, en fait,
c'est pas forcément. Il faut prévenir la veille pour le lendemain, par
c'est
exemple.
C'est pas forcément
un peu de courtoisie, de l'honnêteté.
Une bonne idée. Pour ou contre, le fait de faire manquer l'école aux enfants, une veille de pont, Jean-Philippe Doux, vous.
Alors, moi,
vous partez pas dès ce soir?
Je suis absolument contre. Moi, je suis dans la zone B, on est déjà en vacances. Ah. Je suis absolument contre. Enfin, je trouve que le message est dingue que des parents, en fait, expliquent aux enfants que quand ça les arrange, on peut ne pas respecter un règlement. En plus, je trouve ça complètement débile parce que je peux vous dire, moi qui paye mon TGV tout à l'heure pour redescendre dans le sud, les TGV sont déjà complets aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Donc, ce sont des petits joueurs. Ce qui se fait de plus en plus, en revanche, et c'est scandaleux, c'est les parents qui prennent une semaine totale en janvier. Dans les stations, il y a de plus en plus en janvier des familles qui viennent. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute la semaine, ils sont pas là et parce que évidemment, c'est beaucoup moins cher en janvier, comme ça sera beaucoup moins cher après les vacances.
C'est pas bien pour les mômes de passer du temps avec leurs parents.
Non, Non, c'est pas bien.
Quand
c'est
on
pas
voit notre classement PISA.
Pour moi, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Et donc, qui enfreint la loi de l'école qui dit on sait jusqu'à vendredi soir. Mais à ce moment-là, on ne respecte plus rien.
C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Exactement.
Non,
et surtout, c'est un message que l'enfant
ça
va entendre.
Ça me déçoit beaucoup. Et c'est vraiment, ça me déçoit.
En termes d'éducation, c'est un message qui est vraiment horrible. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant va comprendre que quand ça nous arrange, quand c'est moins cher, eh bien, je peux ne pas aller à l'école.
Bah oui, quand c'est moins cher, moi, il y a plein de gens, je suis désolée, mais quand t'as 100 euros de différence pour 4 personnes, voire 200 euros sur des billets de train ou des billets d'avion, bah oui, moi, je peux comprendre qu'en fait,
apprends à tes enfants à voler tant qu'on y est.
Oh, mais ça n'a rien à voir, Daniel.
Ça coûtera moins cher s'ils vont voler.
Oh, mais les enfants, il y a des parents qui travaillent énormément.
Qui
n'ont pas beaucoup de vacances dans l'année.
La règle, c'est pas bon exemple.
Faire rater un jour d'école à ses enfants, mais c'est pas la mort.
Il faut apprendre la frustration de dire, bah,
c'est très triste ce que tu dis.
Mais ma mère l'a fait aussi.
C'est très décevant.
C'est pas la mort quand même. Tu te rends compte? Et les fois où les profs sont absents, enfin, on n'est pas
justement.
Là.
Je suis sidéré d'entendre ça. C'est incroyable ce qu'on entend là.
Et les parents qui font ça, ce sont les mêmes qui vont aller se plaindre que la maîtresse n'est pas là le mardi, etc. Et en plus, c'est souvent assorti d'un mensonge. C'est-à-dire que l'enfant, il va porter un message de mensonge.
À mentir, à enfreindre les règles.
Si on te demande, t'étais malade.
Mais quelle horreur!
Mais attendez, je voudrais qu'on ait le témoignage de Julien, qui nous appelle de Villeveyrac, dans l'Hérault. Il est agent immobilier et professeur d'espagnol. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous. Julien, vous partez quand en vacances?
Alors, moi, je pars demain matin.
Ben, évidemment.
Désolé Daniel, désolé tout le monde. Papa séparé, donc j'ai des enfants une semaine sur deux. La dernière semaine des vacances du mois de mars, pas sûr qu'on ait de la neige, donc obligé de partir ce week-end, et pour faire un gros week-end, obligé de partir vendredi jusqu'à lundi. Ça leur fera 4 jours de neige, ils seront contents, je serai content, et ils feront péter un jour de cours, et on les rattrapera tranquillement à la maison.
Ils ont quel âge vos enfants, Julien?
Ils sont petits, ils ont 3 ans et 6 ans.
Mais
étant au collège, étant professeur au collège, si mes élèves manquent le dernier jour de cours, aujourd'hui on a Pronote, on a l'ENT, on leur met le cours à rattraper sur l'ENT, et ils le rattrapent pendant les vacances, et il n'y a pas mort d'homme.
Non, mais vous avez raison.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous avez prévenu la maîtresse ou le maître de vos enfants?
Bien sûr, je récupère
vous les avez prévenus que la matière que eux enseignent, c'est vraiment pourri? Non, parce que comme vous le dites, on a l'impression qu'il y a des matières.
C'est optionnel,
c'est une option. Je parle pas de ses enfants. Il a dit qu'il y avait dans son collège ou lycée que la dernière journée, si c'était pour rater EMT ou je sais pas quoi, si c'est les matières de merde, alors on les enlève du programme alors.
Toi, Daniel, tu comprends beaucoup au foot, mais pas beaucoup à l'école, du coup, excuse-moi de te parler comme ça.
Bien sûr. Mais c'est sûr que moi, je suis pas allé à l'école, Julien, les cours de EMT, je m'en souviens pas. Je me souviens qu'effectivement, il faut bien dire à tout le monde que c'est pourri. C'est bien pour la
réunion. Mais c'est pas forcément pourri si.
L'ENT, ce n'est pas une matière de cours. L'ENT,
c'est quelque chose.
On l'enlève alors.
L'ENT, c'est.
C'est comme école directe, Daniel.
C'est des cours qu'on peut mettre sur la plateforme.
Oui.
Pour les devoirs.
Je crois que c'est la matière.
Non,
mais à mon époque, ça n'existe pas.
Vous auriez mieux fait de pas aller à l'école le vendredi, c'est pour avoir ce niveau.
Mais ça s'appelait comme ça.
Éducation
matérielle.
Oh là là.
Mais Julien, est-ce que vous avez pas quand même, vous avez dit quoi au prof de vos enfants? Vous avez dit on part en vacances ou vous avez dit mamie est malade?
Si on part en vacances, on part au lieu d'arriver le samedi matin, dans la précipitation, avec le monde qui va demander ses forfaits, ses skis, etc. Je gagne un jour supplémentaire à mes enfants.
Vous avez raison.
Voilà. Oui.
Moi, je suis à fond avec vous, Julien.
Et puis quand il y a un bouchon sur l'autoroute, si on prend la bande d'arrêt d'urgence, c'est pour aller plus vite. C'est normal.
Et comme il y a du monde à 4h30, il y a du monde devant l'école, donc je vais aller chercher mes enfants à 3h30 parce que c'est beaucoup plus simple pour moi.
Il y a du monde quand tu reviens. Et t'es quand même pas le dernier des crétins à te faire.
Taisez-vous.
Non mais franchement.
Julien, je vous laisse conclure.
Et puis dans la boulangerie, si on vole un peu.
Je ne dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Ça dépend aussi des personnes. Mais on fait du cas par cas. Oui, je sais que ça va vous déplaire de dire ça. On fait du cas par cas. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et c'est pas trop mal, de toute façon.
Et c'est pas pour ça que nos enfants trouveront pas de boulot plus tard ou feront pas de grandes études. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Ça choque beaucoup, Romain, ce qu'on est en train de dire. Je suis moi aussi prof en collège. Qu'est-ce qu'on dirait si les profs faisaient la même chose? Si les profs se barraient le vendredi?
Mais il y en a qui le font.
Mais non.
Arrête, c'est une vanne. Mais non, non, mais attends. Non, mais il y a parfois il y a des coachs qui sont absents. Bon bah voilà, parce qu'ils ont un problème,
mais
etc.
Mais ils se barrent pas un jour avant les vacances pour payer moins cher.
Mais de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, enfin je sais pas si c'est encore comme ça, mais avant le vendredi, avant les vacances, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un goûter. Parfois le prof d'histoire géo, il nous mettait un film. Donc
non, mais ça
donc,
c'est voilà. Au mois de juin. C'est, oui, mais oui, pas bah tout le reste de l'année. Non, la veille de la Toussaint, la veille des vacances de février, là il y a école normalement.
Juillet Brillance. Mais ça va.
Mais ce sont
vos enfants, amenez-les en vacances à pas cher, ils vous remercieront pour ce qu'ils font à l'école, sincèrement. Les profs, il n'y a aucune équivalence entre les élèves et les profs. Mmh. Les profs, ce serait leur métier, ils ont besoin d'être là parce que c'est leur devoir et que sans prof, on ne peut pas faire cours. Sans votre enfant, les profs, à la limite, se réjouiront, ça leur fera un marmot en moins à gérer tout le monde sera très content. Ce sont vos enfants, n'abusez pas, faites uniquement ce qui est bien pour votre enfant, dosez évidemment, ne les enlevez pas une semaine en pleine semaine d'examen, je ne sais pas, c'est à vous de décider.
On peut mettre ce passage de côté pour une fois où elle critiquera les choses qui dans la société ne fonctionnent pas bien.
Toute l'année, le manque d'autorité, les règles, il faut respecter les choses.
Les
collégiens, maintenant, ils peuvent prendre des RTT.
L'autorité, c'est vous, les parents.
Mettez-moi ce passage de côté, par pitié.
L'autorité parentale, c'est à vous de choisir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vos enfants et les emmener en vacances, c'est bien, c'est important. Ne vous ruinez pas, amenez le jeudi soir.
C'est pas la carte.
C'est très bien, écoutez. C'est donneur dans l'année, oh là là, ça va, il y a un mort d'homme non plus. Et j'ajouterais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a beaucoup de familles qui ont des choses compliquées dans leur vie, des familles séparées, des grands-parents qui habitent à l'autre bout du monde. Tout le monde n'a pas la même vie. Alors,
Hervé veut répondre à Juliette. Hervé nous écrit: faire manquer l'école aux enfants, c'est leur apprendre que leur satisfaction personnelle passe avant le respect des règles communes.
Dites-leur que l'école est finie.
Ça commence comme ça et ça finit par en faire des dealers ou des chômeurs professionnels.
Il suffit de leur dire à 3 et 6 ans, ils connaissent pas les jours de la semaine, qu'on est samedi alors qu'on est vendredi. Et puis pardon, mais moi je faisais ça pourquoi? Pour aider les petits commerçants également. Parce que vous savez, en ce moment,
j'en ai connu de la mauvaise foi, mais là
en ce moment, les petits commerçants souffrent. Et là où avant, ils ne pouvaient faire leur gras quelque part, que du samedi au samedi, eh bien nous, les parents indignes, on leur permet de commencer à faire du chiffre d'affaires dès le vendredi.
Mais d'ailleurs, vous n'allez pas faire l'école à la carte. On devrait l'ouvrir toute l'année. Et puis on met les enfants les jours où ça nous arrange. Ça sera encore plus simple. Bah oui.
Daniel Riolo, vous êtes à fond sur ce débat. Vous n'avez jamais fait manquer un jour à vos enfants, même un départ de vacances.
Oui, je vais donner mon avis pendant que tu fais le bilan sur le message que tu as reçu et qui, j'espère, te fait mal au profond
de toi-même.
Oui, ma mère
me dit. Non, mais c'est vrai. Ma mère vient de m'écrire. Je n'ai jamais fait ça. Je suis scandalisée par tes propos.
Merci, madame.
Elle n'a pas raison sur tout. Voilà.
Il me semblait que j'étais partie
parfois.
Pour moi, il y a une distinction très claire entre la maternelle et l'école. L'école, c'est l'école. C'est l'école, c'est l'école primaire à partir du CP. La maternelle, c'est pas du tout la même chose. Donc, je le conçois parfaitement pour la maternelle. À partir du moment où on rentre à l'école, l'école obligatoire du CP, où il y a une vraie organisation, les vraies règles, là, non. Pour moi, c'est pas négociable, parce que c'est comme ça, ça a été dit tout à l'heure, qu'on commence à fabriquer les fameuses générations de glandus. C'est le mauvais exemple. C'est indiquer à des enfants qu'il y a des règles pour certains et pas pour d'autres. Que si on prend la petite bande d'arrêt d'urgence, ça peut peut-être aller un petit peu plus vite. Il y a des règles pour les privilégiés et il y a les règles pour les autres. Pour ceux dont les parents peuvent pas partir plus tôt et qui sont obligés de les laisser jusqu'au bout du samedi matin, pour ceux qui ont cours même le samedi matin.
Oui, mais il y a ceux qui ont les moyens de partir un samedi en plein rush et ceux qui n'ont pas les moyens de partir un samedi en plein rush.
Et vous pensez à ceux qui n'ont pas du tout l'argent pour partir en vacances.
C'est pas ça.
C'est vrai.
Ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, ils partent pas en vacances. Et eux, ils sont obligés de rester du bout. Et ils restent dans la classe et ils regardent ceux qui ont un peu plus de moyens et qui disent « Ah, lui, il a plus se barrer un jour avant et en plus, ses parents, ils ont gratté un peu sur le billet d'avion. Et moi, comme nous, on n'a pas les moyens, on partira pas. On va rester jusqu'au bout, nous, jusqu'à samedi midi, même si c'est une matière pourrie où tout le monde dit que c'est pas la peine d'y aller. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Juliette. Parce que ton espèce de démagogie, comme quoi, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout.
Les profs ont qu'à mettre des contrôles ou des examens le dernier jour. Ça évitera aux parents de faire manquer l'école aux enfants. On est avec Leïla, elle nous appelle de Vaux-en-Velin. Elle est infirmière libérale. Bonjour Leïla.
Bonjour à tous.
Leïla, est-ce que ça vous scandalise que des parents fassent manquer l'école à leurs enfants?
Bah, pas du tout, parce que je le fais.
Ah.
Donc, non, non. Alors,
il n'y a pas beaucoup
tout.
De culpabilité dans
non.
ce rire.
Ah non, vraiment pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a un aspect pécunier qui n'est pas négligeable.
Évidemment.
De deux, j'ai des grands-enfants et j'ai une petite, mes grands, pour la première, elle est en quatrième année de médecine, pour le second, il est dans l'aéronautique, d'accord ? Donc je pense pas qu'ils aient échoué parce qu'effectivement, on est parti plus tôt. On leur a fait découvrir des super pays et avec l'argent qu'on a pu économiser, par exemple, la dernière fois, mon fils a fait tout le palais du gouvernement à Ho Chi Minh, vous voyez ? Donc, il connaît
ah oui, donc c'est des longs voyages, oui.
Ah ouais, il connaît l'histoire d'Ho Chi Minh. Ils ont déjà fait le désert, etc. Non, alors sincèrement, par contre, je préviens. Effectivement, je préviens les profs. Je ne le fais jamais en sous-marin. Je préviens les profs. Je ne le fais pas tout le temps non plus. Hein, mais quand vous avez une différence sur les billets de train, les billets d'avion, qui n'est pas négligeable, avec lequel je peux faire autre chose et je peux instruire mes enfants d'une façon différente, eh ben je le fais. Voilà.
Voilà. Et vos enfants vous remercient et ils sont manifestement devenus ni dealers ni chômeurs. Non, bah, c'est pas ce qu'on dit non plus. Merci Leïla en tout cas et bonnes vacances à vous et à vos enfants. Autre son de cloche, hein, celui de Vincent, parce que Vincent, il est professeur en collège du côté de Villers-la-Faille en Côte d'Or. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. Oui, je suis enseignant à Beaune exactement.
D'accord. Voilà. Vous allez avoir des élèves demain dans votre classe, Vincent, ou pas ?
Alors, moi là, je suis en vacances pour le coup.
D'accord.
Voilà. Et je suis assez d'accord avec Daniel. C'est pas souvent, mais là, je suis d'accord avec Daniel. Ouais, tout à fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, quand je pars en vacances et quand je partais en vacances avec mes enfants, vu que j'étais prof, en fait, je payais plein pot. Et je trouve que c'est un manque de respect de partir avant. Voilà. Ça me dérange. C'est un peu l'école à la carte et les parents râlent quand même suffisamment quand il y a des profs absents et que du coup je trouve pas ça top. Alors après, ce qu'on fait dans mon collège, alors moi j'ai des élèves en difficulté hein, plus particulièrement, et ce qu'on fait le dernier jour, on fait une journée autrement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait pas les cours comme d'habitude.
Bon, bah, voilà.
On se répartit les élèves différemment, on peut mélanger les classes et on fait des activités pédagogiques, voilà, qui sont différentes que des cours particuliers. Les élèves ne ratent pas de cours s'ils viennent pas.
Ah ben voilà, mais donc Vincent, en fait, du coup, on peut partir en vacances plus tôt.
Mais c'est pas une excuse.
Ah bon.
parce que ça apporte quand même quelque chose de ce qu'on fait. Donc faut pas non plus, voilà.
Je vais me faire l'avocat du diable, Vincent. Et c'est que quand même, là, vous êtes prof et je comprends parfaitement, évidemment, que si vous avez la prof de physique qui dit, moi je pars le jeudi soir, c'est vraiment moins cher les billets de TGV, bon, ça va gêner les parents. Mais Vincent, quand même, en tant que prof, vous avez globalement plus de vacances que les autres Français. Donc en fait, vous, ça veut dire que vous avez plus de vacances pour passer du temps avec vos enfants. Mais comprenez qu'il y a aussi des gens qui ont très peu de vacances et qui ne passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants, donc qui essaient d'en profiter un maximum.
Oui, on peut voir ça comme ça, mais si, si c'est une question financière, voilà.
Oui, ça je l'entends.
Voilà. Après, oui, peut-être. Après.
Est-ce qu'il est fou dans ce que dit Vincent ? Vincent, ce qui est fou, c'est que c'est à vous de vous adapter à l'absentéisme du dernier jour en faisant des cours différemment pour que les enfants qui sont partis en vacances plus tôt ne soient pas pénalisés.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi qu'on sent bien à l'approche des vacances une baisse de motivation. On va dire, les jeunes se mettent déjà un petit peu dans la position de « c'est bientôt les vacances, on baisse un peu le régime ». Et du coup, c'est plus ça. Mais on fait pas ça parce que certains seront pas là. On fait ça parce que le rythme est un peu moins soutenu et puis c'est plus cool, quoi. Et c'est sympa de faire des choses un peu différentes avec les gamins.
Voilà. Évidemment. Merci Vincent en tout cas d'avoir appelé prof en collège à Beaune en Côte d'Or. Merci Vincent. On termine avec des messages et le résultat de notre sondage, Charles.
Oui, j'ai par exemple Julien qui nous dit faire rater l'école aux enfants avant les vacances et ensuite venir se plaindre quand les profs sont absents. Mais quelle indignité, comme dirait Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'en pense Julien. J'ai Jen qui nous dit « Je suis très fier de la maman d'Estelle qui a bien raison de la remettre dans le droit chemin. » Voilà, gros succès. Hélène qui nous raconte « Dans l'école de mes enfants, la maîtresse faisait tous les contrôles le samedi matin. Ça obligeait tous les enfants à être là avec tous les parents, à bien respecter. » Et puis Franck qui nous dit « Mais alors, quand Estelle aura enfin obtenu la semaine en 4 jours, est-ce qu'elle partira dès le mercredi en vacances ?»
En vrai, je vais y réfléchir. Mais franchement, je vous jure, si j'avais la semaine en 4 jours, je ne ferais jamais ça.
Ah, bel engagement.
Oui, mais enfin, moi, c'est dans un bel engagement un peu de frais, hein, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein.
C'est vrai, une utopie, une utopie. En attendant, on vous a posé la question sur nos réseaux, faire manquer un jour d'école à ses enfants pour partir plus tôt en vacances. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous êtes contre à 57%.
Oh, c'est bien. Très partagé.
L'intolérance.
Il y a beaucoup de profs qui nous écoutent, manifestement.
C'est ça,
voilà, c'est la fin de ce best-of d'Estelle Midi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Vincent Moscato et toute sa bande. Les meilleurs moments du Super Moscato Show. Bonne fin de journée sur RMC et à demain.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.